C'est le jour anniversaire du don des deuxièmes tables. Et en même temps, des deux autres choses, deuxième Shem Hashem, ce deuxième Shem Hashem, il est dans les Shloshe Esre Midot. Les Shloshe Esre Midot, elles commencent Hashem, Hashem, Kelracho. Pourquoi on dit deux fois le nom d'Hashem? Un pour avant la faute et un pour après la faute. Donc, Yom Kippour, c'est le. C'est devenu Yom HaKippourim, le jour du pardon, parce que c'est le jour où Hachem a pardonné concrètement la faute du Vaudor. Quand est-ce que concrètement les Bnei Israël ont expérimenté quelque chose qui montrait qu'Hachem avait pardonné? C'est ce jour-là. Moshe Rabbeinu nous a ramené les Luchot. Là, oui.
Le deuxième nom d'Hachem, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous dites.
C'est le même. C'est le même, c'est un deuxième exemplaire du même nom divin. N'y a pas d'autre nom divin parce que sinon on pourrait penser qu'il y a deux divinités. Elles avaient des noms différents.
Des fois, il y a plusieurs noms.
Oui, mais. Tous les noms divins, hein, correspondent à des façons de gouverner le monde. Et la façon de faire exister le monde, c'est lié avec le tétragramme. S'il y avait un autre nom qui faisait aussi exister, on aurait deux divinités.
Et Loki, par rapport à laquelle?
C'est un nom plus bas dans la hiérarchie, dont la gématria, c'est la même gématria que la Teva, la nature. Et c'est le nom divin qui a servi au début de la création. Bereshit bara Elohim, mais pas Bereshit bara Hashem. Après, Hashem a ajouté Hashem Elohim, plus loin dans le récit, Hashem Elohim.
Sur quelle période que vous dit
Ça, c'est Shem, c'est Shem, Malkitzedek. C'est un nom divin, un autre divin, c'est une autre anaga d'Hashem. Par exemple, ce qu'est Elion, Shem, qui était donc le Cohen de ce qu'est Elion. Shem, c'est quelqu'un qui a vécu dans la tour d'ivoire. C'est-à-dire qu'il ne se mêlait pas à la population, et Chazal montre combien, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en voit la trace dans la Torah, combien Shem a été impressionné par Abraham, qui était très grand, donc il a compris qu'il était très grand, mais qui était complètement investi dans le monde. Il a quasiment Hachem, il a quasiment adoré Hachem, adoré Abraham. Il a, Chazal dit, il a donné il a donné des libations, il l'a adoré, quoi. Quelque part, il l'a mis sur une estrade et il l'a quasiment adoré. La différence entre les louchot, les deuxièmes louchot et les premières, dans le texte de la Torah, on ne voit pas directement la différence parce que, enfin, on voit une petite différence, mais on ne voit pas une grande différence. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, les premières louchot, c'était le support sur lequel Hachem a gravé les Aseret HaDibrot. Le support aussi, c'est Hachem qui l'a produit dans les premières louchot. Mais dans les deuxièmes, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui dois tailler, tu vas tailler des pierres et tu vas m'amener les pierres et moi j'écrirai sur ces pierres que tu vas amener, sur ces deux pierres que tu vas amener, j'écrirai la même chose que ce que j'ai écrit sur les premières tables. Donc a priori, après coup, si on veut, sauf que le matériau était d'origine humaine, si on peut parler comme ça, enfin, produit par un homme, mais à partir du matériau qu'Hachem avait créé, bien sûr. Les premières louchot, elles étaient entièrement d'origine divine. Mais ce qui était écrit, c'est la même chose. Sauf que, sur les premières louchot, sans que ce soit écrit de façon claire, mais on pouvait lire toute la Torah orale. Toute la Torah orale était lisible sur les premières loquettes. C'est-à-dire, la Torah orale n'était pas quelque chose qu'il fallait travailler pour obtenir. C'était donné, aussi. S'appelle Torah orale, le contenu, etc., tout ce qui permet concrètement de réaliser la Torah. Alors que dans les deuxièmes loquettes, ça y est pas. Il faut bosser. La Torah orale, il faut bosser. Bon, c'est marqué. Bon, il faut, c'est pas, il suffit pas d'étudier. Il faut vraiment travailler. C'est la grande différence entre les deux lourdes, première et les deuxièmes. On a gardé les shvarim, les brisures des premières lourdes. Elles étaient dans le Aaron HaKodesh. Dans l'Aaron, il y avait les brisures des premières, il y avait les deuxièmes, il y avait aussi un Sefer Torah.
C'est aussi un Sefer Torah.
Moshe Rabbeinu a mis aussi un Sefer Torah dedans. Quand il a écrit un Sefer Torah, on a mis dans le Aaron un Sefer Torah.
Et sur les points, quand on dit Moshe Rabbeinu a étudié avec plus d'HL pendant les 40 jours, les 40 nuits, et que
Tout
ça
ça, c'est toute la Torah.
a sur les premières.
C'est sur les premières, bien sûr, sur les premières.
Qu'est-ce que ça veut dire si tu ne comprends pas, que nous, on va la lire, on comprend.
Ah ouais? Quand c'est écrit, ce n'était pas écrit pour Moshe Rabbeinu. Moshe
C'est pas.
Rabbeinu, il a reçu les loquettes la veille de descendre. Il n'était pas complètement reçu. La Gemara, elle raconte que les loquettes, elles font 6 tfachim, chacune des deux tables est 6 tfachim de long. Il y avait deux tfachim dans la main d'Hachem, si on peut parler comme ça, deux tfachim dans la main de Moshe Rabbeinu et deux tfachim au milieu, entre les deux, quoi. On tient quelque chose, on tient ici, on tient là, et le reste est maintenu directement. Et quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, lève, raide, descend, Moshe Rabbeinu l'a arraché les louchot d'Hachem, des mains d'Hachem. Bon. Faut comprendre ce que ça veut dire, Hachem n'a pas de main, il a pas de, etc. Mais dans l'idée, il a arraché les loquettes.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on pouvait lire
Après
et
coup,
faire
on
la
pouvait lire,
Torah?
mais on ne pouvait plus lire après.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça
Ça
veut
veut
dire
dire
qu'on
qu'on n'a
pouvait
pas
lire?
besoin de travailler. C'est-à-dire que si, comme quelque chose que tu peux y accéder, si tu l'as lu, tu le sais. Faut que tu te rappelles, mais c'est tout.
Il n'y avait pas d'effort
Il n'y a pas d'effort
de
pour arracher. La Torah, elle va être produite par les Chachamim. Mais ils vont la produire en l'arrachant, là. Ils vont s'investir avec tout leur être. Et d'ailleurs, en passant, on peut dire, il y a une fameuse question qui est que si la Torah, c'est la vérité, comment se fait-il qu'il y ait une machloket entre les Chachamim. Bon, il peut y avoir une marque si celui-là dit comme ci, l'autre dit comme ça, mais il n'y a pas de
Ah,
vérité.
l'idée de marque.
Oui, l'idée même qu'il y ait une marque entre les Chachamim, c'est une drôle d'idée, non?
Pas parce que les maîtres, nous on sait qu'elle est maître au moment où on fait une marque.
Non,
On arrache le maître, on essaie
Mais
d'arracher.
on va dire qu'ils ont produit la Torah. On va dire, il dit, Elou ve Elou, divrei Elokim Chaim. Ils disent tous les deux, là en l'occurrence, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, dans l'histoire du four, ou dans l'histoire de quand est-ce qu'on a créé le monde, est-ce qu'on a créé le monde, est-ce qu'Hachem a créé le monde en automne, ou est-ce qu'il a créé le monde au printemps. Alors, l'explication que je connais, la suivante. Dans le Midrash, c'est marqué que quand HaKadosh Baruch Hu a dit qu'il allait créer l'homme, les malachim se sont partagés en deux groupes. Les uns ont dit il faut pas le créer, il est tout entier mensonge. Et les autres ont dit, non, il faut le créer parce qu'il est capable de faire du chesed. Chesed, Emet. Comment on fait pour trancher entre les deux? Chesed, Emet. Pas. Emet, c'est une valeur fondamentale. Comment on peut créer un homme qui est tout entier mensonge? Alors, le Midrash ramène le passouk que tout le monde connaît. Après, beaucoup, il a pris le Emet, il l'a jeté par terre. On a dit Emet, mais Eretz Titzmach. La vérité, elle doit croître, pousser de la terre. C'est-à-dire, le Emet, c'est les hommes qui vont le produire. Mais cet Emet-là, il sera évidemment un Emet relatif. Parce que les hommes, ils ne vont pas produire un seul émet. Quand on réfléchit, on réfléchit, chacun réfléchit avec ce qu'il est, et chacun va produire autre chose. Un va dire le four est, d'après mon enseignement, le four est tamé, l'autre va dire grossièrement le four est tahor. Et on va dire tous les deux sont vrais. Tous les deux, c'est livré et l'opprime. Aïm.
C'est pas en fait ce moment-là où la discussion n'a pas été au bout, que l'HM a dit trop tard, c'est trop tard.
Non, ça, tout le monde, il l'a créé. Il a créé l'homme, bien que il ait été mensonger, parce qu'il a réglé le problème. Il a dit, je mets le Emet, il y a un Emet absolu, mais je ne demande pas à cet homme d'être conforme au émet absolu. Il va produire lui-même, ben tous, il va faire des efforts pour produire le émet, pour produire de la vérité, produire de la Torah. Si la Torah, c'est le émet, la Torah que nous avons, c'est une Torah qui a été produite parce que Rabbi Meir, d'abord Rabbi Akiva surtout, tout ce qu'on a, c'est quasiment la Torah enseignée par Rabbi Akiva. Sans Rabbi Akiva, on sait rien, parce que les Mishnayot sont même les Stam Mishnah qui Rabbi Meir, mais à l'idée de Rabbi Akiva. Donc c'est ça ça qui fait que, voilà, il peut y avoir Machloket, c'est très bien, c'est comme ça qu'Hachem a voulu que les choses soient. D'ailleurs, on voit très bien dans la fameuse discussion sur le four, où Rabbi Eliezer, qui était le grand, mais il était en minorité, on passait au vote et on a voté contre lui. Alors, comme vous savez, il a dit, mais si ces choses sont comme je le dis, le ruisseau va remonter à sa source, les murs de Beth Amidrash vont s'incliner, vont se pencher. Amad Rabbi Yeshua al Raglav, l'autre, et Amar, la Torah n'est plus au ciel, tu nous l'as donnée. Et nous, on a décidé, à la majorité, ce qu'on a décidé, qui est contraire à ce que Rabbi Eliezer, presque, on peut se dire, Rabbi Eliezer, puisque Hachem a accepté de. Ce n'est pas le Rabbi Eliezer qui a fait pencher les murs. Hein. Donc Hachem a accepté de manifester en quelque sorte, Mina Shamaim, mais oui, l'Alaha, elle est comme lui, faites comme lui. Alors, je lui ai dit non, pas question. Et elle a demandé qu'est-ce qu'Hachem dit. Finalement, Hachem s'est quasiment manifesté pour dire que l'Alaha, elle était comme Rabbi Eliezer. Et les Chachamim, ils disent non, ça ne nous intéresse pas. Tu n'es plus en position de pouvoir nous imposer la halakha, c'est nous qui la déterminons. Hachem a dit, Yitzchuni Banaï, les enfants m'ont vaincu. C'est comme ça. C'est ça là. Et ensuite, il y a plein d'exemples où on dit que dans la Yeshiva Shel Maala où on étudie ce que les Chachamim m'ont dit en bas. Ils n'ont pas leur étude à eux. Avec leurs idées, ils répètent ce que nous on a dit. De même que les malachim ne peuvent dire la kdoucha d'Hachem qu'après que nous l'ayons dite, d'accord? Donc, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il ne parle qu'après nous. De la même manière, en haut, on dit, on étudie ce que les hommes ont étudié et ont dit. On refait la discussion d'en bas. Bon, alors je reviens sur notre sujet. On a donc reçu les locotes et on a reçu donc le professeur Midot. Je vous ai dit comment ça se traduisait concrètement dans la journée de Kippour. On avait vu déjà en Rosh Hashanah qu'il y avait dans la sonnerie de shofar une idée comme quoi il fallait faire tchouva. Alors le Rambam, par exemple, il écrit que la tchouva, c'est très bien tous les jours, il faut faire tchouva tous les jours. Mais c'est pour Rambam, la tchouva n'est pas une mitzvah. C'est une machloket rishonim, est-ce que la tchouva est une mitzvah ou n'en est pas? Si vous voulez, c'est difficile d'entendre que la tchouva soit une mitzvah. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la tchouva? Elle dit, tu dois faire ce qu'Hachem te dit de faire. Il l'a déjà dit. Et la Torah, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Les choses qui sont déjà dites, il faut prendre un loulav à Sukkot, il faut pas prêter intérêt, il faut s'occuper de laisser, je sais pas, des pans du champ quand tu moissonnes, etc. C'est déjà tout ça, c'est écrit. Qu'est-ce qu'elle dit là? Tu vois, elle dit rien de plus. Bon, c'est quoi? C'est redire des choses qui sont déjà bien connues. Alors, en réalité, comme je vous dis, la Gemara, elle dit très clairement qu'on doit faire tu vois tous les jours. Bon, puisque dès que tu prends conscience que tu as fait une faute, ben, il faut réparer. Pourquoi est-ce qu'il faut réparer? Parce que quand Hachem a présenté les choses, il lui a dit, Ré, regarde, je mets devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Donc quand tu fais le mal, d'une certaine manière, tu es mort. Alors tu es spirituellement mort. Spirituellement mort, même si c'est seulement partiellement, hein, c'est-à-dire tu es éloigné de la source de vie, tu t'es éloigné de la source de vie, en fait, en faisant une faute. Et donc, c'est pas bien, c'est grave, c'est mauvais, etc. Mais il faut faire tchouva. Alors, comment on fait tchouva? Alors, il y a une règle très claire. La tchouva, elle se fait de la manière suivante. Il faut d'abord prendre conscience qu'on a fait une faute. C'est très important, et pour prendre conscience et pour prendre la distance, etc., par rapport à la faute, il faut exprimer la faute qui était faite. Il faut dire, celui qui a fait une faute, il doit dire qu'il a fait cette faute-là. À qui il faut le dire? À lui-même. Mais il faut l'exprimer. On ne peut pas prendre la distance par rapport à quelque chose si c'est encore entièrement en nous. Pour l'exprimer, pour qu'on puisse prendre une distance, puisse le mettre. Cette expression de la faute, ça s'appelle vidouille. Le vidouille, c'est une confession. On confesse. Je confesse devant Hachem, mais pas devant quelqu'un. Bon, c'est privé. Et donc, on voudrait qu'on puisse faire cette confession, en particulier qu'on puisse faire Touva, donc on fait cette confession à Kippour, mais on est tous à un côté de l'autre, à la choule. Je peux pas, si je dois le dire, le voisin, il va l'entendre. Alors on a tourné la difficulté en faisant une liste de toutes les fautes, enfin, les principales. Hachamnu, Bagadnu, une liste alphabétique. Et tout le monde lit toute la liste. C'est juste que quand tu lis dans ta tête, Et ça me concerne, ça me concerne pas. Mais bien entendu, pour savoir si ça me concerne ou ne me concerne pas, faut avoir réfléchi avant. Donc, c'est pas. La tchouva, elle se fait. Quand on fait tchouva sur une faute, si le lundi dans la journée, quelqu'un s'aperçoit, voilà, j'ai dit du lachonara et je veux faire tchouva. Alors, bon, il y a une règle générale qu'on ne peut pas faire tchouva si on n'a pas réparé ce qui est réparable. C'est-à-dire, le voleur, il ne peut pas faire tchouva s'il n'a pas restitué l'objet ou la contre-valeur de l'objet. Il y a des situations, bien sûr, où on ne peut pas vraiment réparer. Si A a tué B, il fait tchouva, il peut faire tchouva, mais ça ne répare pas. En général, il n'est pas capable de ressusciter B. Général. Donc, ça, on ne peut pas réparer. Ce sera effectivement particulièrement difficile de faire tchouva là-dessus. Ben, savoir, il faut que la Torah nous indique comment on peut faire tchouva là-dessus. Donc, quand c'est une faute bien précise ou deux fautes, c'est relativement facile. Mais quand on fait un bilan et qu'on le fait, un bilan annuel sur les fautes qu'on a faites, bon, d'abord, il faut arriver à s'en souvenir. C'est pour ça qu'il faut faire tchouva tout de suite, parce que au moins, tu as des chances de te rappeler, quoi. Après, c'est difficile de se souvenir. Et surtout, l'important, c'est de se souvenir et de ne pas minimiser la faute. Il y a un passouk dans le Nabi Irmiya qui dit, je vous jugerai sur le fait que vous dites que vous n'avez pas fauté. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve des excuses, qui dit, oh, c'était pas vraiment une faute, j'étais en légitime défense ou n'importe quoi. On se raconte des histoires pour diminuer la faute qui est. Il ne faut pas faire ça parce que si tu diminues la faute, quand tu fais tchouva, tu vas faire tchouva sur une faute diminuée, tu n'auras pas fait tchouva sur la vraie faute. Et donc, il faut en tout cas arriver à reconnaître, on ne te demande pas de le reconnaître devant quelqu'un d'autre, a priori. C'est plein de fautes que tu dois reconnaître devant un chien.
Il y a même une faute dans les par rapport à.
Non, c'est bien sûr que ce n'est pas la même chose. Bien sûr qu'une faute des Rabbanan et une faute de Raïta, c'est beaucoup plus grave.
Oui, mais en termes de.
Alors, tu vas sur les deux. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on a transgressé quand on a transgressé un dérabanan? Alors, quand on transgresse un dérabanan, en fait, on transgresse un deoraita qui dit tu dois écouter les rabanan. Donc, en fait, la tshuva sur un dérabanan, c'est je dois écouter les rabanan. Donc, une fois qu'on a pris conscience, on a confessé la faute qu'on a faite, il faut regretter la faute. Il faut vouloir, je voudrais ne pas me trouver maintenant dans l'état dans lequel je suis, d'éloignement par rapport à Hachem, etc., suite à la faute que j'ai faite. Et je prends des mesures pour ne pas retomber dans les mêmes ornières. Donc sur le passé, sur le présent, etc. Ça c'est la tchouva, le processus de tchouva avec le vidouille au centre, bon. Ce qui est le geste de la tchouva, la mitzvah de tchouva, si c'est une mitzvah, cette capacité qu'on a de faire tchouva, elle a un geste qui est une parole en réalité, une parole de vidouille, une confession. C'est ça le geste de la tchouva. Alors paradoxalement, à Kippour, elle vidouille, mais on ne parle pas ni de ni de regrets, ni de mesures prises pour ne pas se redresser la vie. C'est pas marqué clairement. Il n'y a pas de texte qui dit je regrette. Il y a dans le texte juste une mention, c'est que nous ne sommes pas culottés au point de dire que nous n'avons pas fauté. La tentation est toujours de dire qu'on n'a pas fauté, que bon, c'est les circonstances qui ont fait, etc. Aval anachnu chatan. Pour reconnaître, nous avons fauté.
Immédiatement après la
La Gemara, elle dit, si tu vois un Talmid Chacham qui fait une faute, le lendemain, tu peux plus lui en parler parce que c'est sûr que le soir, il a fait Tchouva. Normalement, il faut faire Tchouva et qu'on prend conscience qu'on a fait la faute. Est-ce que tu vas rester dans un état comme si tu disais, j'ai bu un poison, j'ai l'antidote, ouais, mais je la prendrai un peu plus tard. Non, je prends tout de suite. La prendre aussi vite que possible.
Par exemple, à
Oui, au moitié Shabbat, si tu préfères moitié Shabbat, tu fais un examen et tu regardes comment j'ai passé mon Shabbat. Alors, si quelqu'un sait qu'il a fait, il a aimé pas le Shabbat, moitié Shabbat, il peut faire tshuva. Voilà, j'ai été me faire le Shabbat, peut-être dire de quelle manière, je le regrette, je voudrais bien ne pas être dans cet état d'éloignement d'Hachem que dans lequel je suis parce que j'ai fait cette faute. Et la prochaine fois, je vais réfléchir comment est-ce que je peux faire pour ne plus être mechalel. Parce que si j'ai allumé par, j'ai pas fait, j'ai l'habitude, etc., alors peut-être il faut mettre un cache pour que ça te rappelle que tu vas pas allumer quand tu veux pas allumer. Alors, il y a un chazal qui dit que en Adam vera vera mais si on prenait toute cette bête de folie, un esprit de folie, quoi. Parce que c'est une folie de transgresser les ordres d'Hachem. Tu vas créer, tu transgresses les ordres de ton créateur. Tu crois que ça peut passer, tu crois qu'il ne le saura pas. Mais évidemment, on ne peut pas dire que c'est une folie qui nous dispenserait de la responsabilité. C'est pas que quelqu'un qui est vraiment fou et qui agit et qui est malade, ça n'a aucune importance, il est fou.
C'est pas ce qu'on dit. On ne cherche pas à dire que nous ne sommes pas responsables et donc à
Non,
poser
non, pas
ça.
du tout. Il s'agit pas de. On veut seulement dire que c'est en vérité une folie de faire une faute. C'est comment? Parce que rationnellement, tu peux pas justifier que tu fais une faute. Si tu crois, enfin, tu connais la Torah, comment tu vas justifier de faire une faute? Et si c'est rationnellement pas justifiable, alors c'est de la folie. Oui, alors ça c'est justement ça c'est le reproche dont on a parlé avec le Bassouk de Yirmiya. Ne dites pas j'ai pas fauté. Parce que comment on dit j'ai pas fauté? J'ai pas fauté parce que en fait j'étais obligé. C'est pas une faute que je me suis comme on dit dans d'autres domaines, en légitime défense. Donc, c'est pas j'ai tué personne. Je veux dire, c'est légitime défense. Je veux dire, tu peux pas me considérer comme un meurtrier parce que je me suis défendu et que j'étais obligé de tuer l'agresseur. Sinon, c'est lui qui me tuait. Mais en vérité, on voit très bien que même en légitime défense, Celui qui a tué, il n'est plus le même que celui qui n'a pas tué. Bon, ça va pas dans les habits, toutes ces choses-là. C'est pas absorbé comme ça extérieurement. Ça vous modifie. Une des grandes causes, si vous voulez, façon dont les gens vivent, etc. Quand les gens sont obligés, par exemple, de faire la guerre et de tuer, alors même si on sait très bien que si tu es obligé de faire la guerre, parce que si tu fais pas la guerre, c'est l'autre qui va te tuer, mais ça passe pas inaperçu. Par conséquent, quand on est obligé par l'ennemi de faire la guerre, même si on l'a battu, etc., après, il nous a quand même changé. Donc il a quand même toujours gagné un peu, même quand il a perdu. Mais le dommage, il l'a causé. Il n'a pas causé la même chose que s'il avait tué. Mais il a tué quelque chose dans l'autre, dans celui. Du coup, on a un autre regard sur la vie, etc. Tout est changé. Voilà, une société qui est obligée de faire la guerre, la société, elle est changée par le fait de devoir faire la guerre. Alors, à Yom Kippour, on n'a visiblement pas besoin de dire qu'on regrette, etc. Parce qu'on est mis dans un état où, quand je dis j'ai fauté, tout vient avec. Et comment on est dans cet état-là? Parce que il y a Yom Kippour, 5 inouïm. Il y a 5 interdits, ou si vous voulez, 5 privations. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas te oindre, tu ne peux pas mettre des chaussures qui te tiennent le pied vraiment, donc pas de cuir sur les chaussures. Tu n'as pas de relation conjugale. C'est cette situation-là, inouïm, ça s'appelle. Inouïm, c'est un mot qui veut dire souffrance. C'est pas des tortures, je veux dire, ne pas manger, boire pendant 24 heures pour le commun des mortels. C'est pas une torture. C'est un désagrément, probablement. Ça dépend donc de quel climat, etc. Mais c'est pas terrible. On va mettre des chaussures en cuir aujourd'hui, on met des chaussures avec qui sont pas en cuir, qui sont beaucoup plus, je sais pas si c'est juste un petit grand de chaussures là, mais ils sont beaucoup plus confortables que d'autres chaussures qui sont en cuir. Le cuir, c'est qu'on représentait la chaussure qui tient bien le pied, où on est vraiment, quand j'étais jeune, les gens qui étaient des espadrilles, par exemple. Espadrilles, c'est pas des nu-pieds, etc., c'est pas très à l'aise, je veux dire. Mais néanmoins, ces inouïms-là, c'est intéressant parce que le mot inouïm, il a la même racine que le mot anava. Anava, c'est l'humilité. Bon, c'est Ain, Nun, Vav, si vous voulez. C'est anava, l'humilité. Ça nous met dans un état d'humilité. Effectivement, quand tu n'as pas mangé, quand tu n'as pas bu, etc., c'est un peu. Ça te rabaisse un peu. Donc, cette atmosphère-là, C'est une atmosphère qui fait que quand tu dis j'ai fauté, automatiquement, tu n'as pas besoin de commentaires en quelque sorte. On comprend très bien. Maintenant, Yom Kippour, présenté dans la Torah comme étant Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, ça veut dire c'est le Shabbat des Shabbatot. C'est un ce sur-Shabbat. Et d'un autre côté, Yom Kippour, c'est un Yom Tov. Alors, si vous regardez la bracha spécifique qu'on fait dans la Hamida, c'est une bracha, Shabbat, on dit Mekadesh à Shabbat. Yom Tov, on dit Mekadesh Israël Ve'Azmanim. Yom Kippour, on dit Mekadesh Israël Ve'Yom HaKippourim. Donc, quand on dit Mekadesh Israël Ve, ça veut dire Hachem a sanctifié le clan Israël, et le clan Israël à son tour sanctifie le temps. C'est nous qui, d'une certaine manière, fabriquons les fameux rendez-vous avec Hachem. Puisque même si c'est lui qui dit donne la date, mais c'est nous qui disons quand commence le mois. Donc quand Hachem dit ça sera le 15, très bien, mais c'est nous qui disons quand va tomber le 15, puisque c'est nous qui disons quand tombe le premier. C'est nous qui dit. Shabbat, c'est déjà Shabbat, c'est Hachem qui met le
Pour tomber à Shabbat, on va faire un message de Shabbat.
Alors, on va introduire Shabbat aussi. On va dire Mekadesh à Shabbat, Israël, Yom HaKippourim. Mais par rapport à Yom Kippour, même quand c'est Shabbat, c'est Yom Tov. Alors ça ne change pas grand-chose, ça change par rapport aux sanctions. Mais qu'est-ce qui se passe quand on transgresse? Ce n'est pas la même chose de transgresser Yom Tov. Les mêmes melachot, transgresser Yom Tov ou Shabbat, ce n'est pas sanctionné exactement de la même manière. Bon, c'est pour l'instant. Mais par contre, Shabbat, c'est comme on le dit dans les Zmirot, etc., c'est Me'ein Olam Haba. Shabbat, c'est un avant-goût de Olam Haba, de ce monde où, effectivement, le monde du salaire, le monde de la récompense, si on peut parler comme ça, le monde où il n'y a plus rien à faire. L'homme est totalement en position de jouir, quoi, Shabbat. Shabbat, c'est le oneg, c'est-à-dire une forme de jouissance. Alors bon, on n'est pas au Olam Haba, mais dans Olam Haba, c'est marqué, les gens sont là et ils jouissent de l'éclat de la présence divine. Ce que ça veut dire, j'en sais rien, mais on entend bien ce que ça peut vouloir dire. C'est clair? Yom Tov, c'est pas comme ça. Yom Tov, ça se construit. C'est Israël qui construit. Kadesh Israël et Israël Azmanim. Et c'est le cas pour Yom Kippour aussi. Donc quand on dit Shabbat Shabbaton, c'est vrai qu'il y a une dimension shabbatique, mais il y a néanmoins une dimension de construction, en fait. Yom Tov, c'est nous qui définissons le Yom Tov. Donc, c'est nous qui construisons la relation. Shabbat, c'est, puisque c'est nous qui déterminons le calendrier, et que le Yom Tov est lié au calendrier. Le Shabbat n'est pas lié au calendrier, il vient tous les 7 jours, même si on n'avait pas de calendrier, tous les 7 jours.
Mais c'est plus dans ce sens-là que dans le sens du poète, c'est-à-dire de la fixation du calendrier pour les Yom Tov.
Ça veut dire,
Ce que vous dites, c'est que
c'est Yom Tov et Rosh Chodesh qu'on voit ça.
construit les Yom Tov, je veux dire, on les détermine dans le calendrier.
D'abord, on les
C'est pas
détermine
les
et du coup,
construit.
ça veut dire qu'on les construit. Ça veut dire que la relation, quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, quand vous êtes celui qui donne le rendez-vous, ça veut dire que vous avez un programme, vous allez lui faire des propositions, vous allez écouter éventuellement ses propositions, on va construire la relation. Dans Shabbat, les hommes ils font rien, ils proposent rien. Propose rien à Hachem Shabbat. Tu reçois.
Est-ce que la préparation pour les peuples fait partie de la construction dont vous parlez?
Bien sûr.
Mais donc, mais à Shabbat aussi.
Non, mais Shabbat, Yom Tov, on peut préparer pendant Yom Tov encore. On peut cuire pendant Yom Tov. Il faut une flamme déjà existante, mais on peut cuire. Enfin, essentiel, on peut faire ce dont on a besoin pour manger, on peut faire la shrita, on peut. C'est un monde. Yom Tov, c'est ouvert, si vous voulez, par rapport à Shabbat, qui est d'une certaine manière fermé.
Et donc, Yom Kippour, c'est les deux.
Pardon?
Yom Kippour, c'est les deux, c'est Eshabat et Yom Tov.
Oui, Yom Kippour.
Oui.
Oui. Il y a les deux. Alors, pourquoi c'est. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est les deux? Ça veut dire qu'à la fois, ce jour-là, on va entrer dans un monde extraordinaire, dans le monde de la Yédia, dans le monde de la connaissance de la vérité, etc. Mais il y a un travail de préparation. Donc, si vous voulez, ça commence par préparation, par un choix et tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, c'est un monde de la Bechira, si vous voulez, puis ensuite on passe au monde de la Yedia. Donc, dans Yom Kippour, il y a un changement de monde, en fait. Alors que Yom Tov ou Shabbat, on est dans les. Shabbat, on est dans un certain monde, et Yom Tov dans un autre monde. Mais le passage d'un monde à l'autre, ça c'est spécifique à Yom Kippour. On comprend très bien parce que c'est un jour où Hachem a pardonné, c'est-à-dire. On était dans un monde où on était loin d'Hachem, et maintenant Hachem nous a rapprochés. C'est pas grave. C'est pas du tout quantitatif, c'est qualitatif. Ça a changé de type de relation avec Hachem. Et en plus, ça se traduit pas durant la journée, mais Yom Kippour. Avec cette façon de pas manger, de pas boire, d'être avec des baskets et machin, dans certaines communautés, tout le monde est en blanc, etc. On est un peu comparable aux anges. On se prend pour des anges, ce jour-là. Bon, tout le monde sait que les anges sont en blanc, donc, évidemment, c'est bien facile à comprendre. Il y a quelque part espèce de ce côté un peu angélique, mais les anges, c'est des créatures complètement spirituelles, reçoivent tout d'Hachem. Mais moi, j'avais voulu expliquer, je ne suis pas sûr que ça tienne complètement la route, mais je pensais que le mot malar, je veux dire l'ange, il est de la même famille que melacha. Ça, c'est sûr. C'est même la Med, Aleph, Raf. Bon, c'est clair que c'est Malar. C'est comme si le Malar, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le Malar? Ben, c'est l'agent d'une parole divine. Hachem donne un ordre, en quelque sorte, et cet ordre-là est véhiculé par, il est réalisé, véhiculé par le Malar. Tous les ordres d'Hachem sont des malachim. Donc, quelque part, il y a cette idée de melacha dans un malach. Un malach fait un travail quelque part. Et d'ailleurs, il est en charge de quelque chose. Et ensuite, il doit donner des comptes. Est-ce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire?
Est-ce que les paroles d'Hachem, c'est des malachim ou est-ce
Oui,
qu'il y a
quand
des...
des paroles constructives d'Hachem, Hachem dit construit, il veut que ce soit ça, comment ça se passe, comment ça se réalise, ça se réalise par ce qu'on appelle un malach. C'est-à-dire, il y a une énergie qui est émise, qui circule, qui va transformer, qui va faire les choses.
Mais ça, c'est les paroles performatives. Mais elles sont toutes performatives, celles qui sont les paroles d'Hachem. Quand, par exemple, HM, c'est juste pour savoir la facture, quand HM parle avec Moshe, est-ce qu'on considère que ce sont des malafines, ces paroles? Oui, oui aussi.
Oui, si vous voulez, quand Hachem parle avec Moshe, il se passe quelque chose, Moshe, il l'entend. Personne d'autre n'entend, mais lui, il l'entend. Et donc, comme on a vu, non, c'est pas avec vous, on a vu ça dans le Kuzari. Le Kuzari, il disait, mais il se passe quelque chose dans l'air et l'air, tout à coup, il prend une forme qui va lui permettre d'entrer dans mon oreille. Ouais. D'accord. Il y a eu émission d'un flux quand on parle. Parle quand les hommes parlent. Ouais. Comment ça se fait que ça arrive dans mon oreille? C'est un processus. Bon, alors on peut décrire, c'est une onde, etc. Mais bon, ok, c'est une onde qui va prendre des formes. Cette onde-là va quand même arriver quelque part. Ça va se débrouiller pour que je l'entende. Ça va faire vibrer quelque chose chez moi qui va prendre du sens.
Si formé pour entendre.
Oui, ben, Hachem nous a créés avec des oreilles. Ça fait un bout de temps que je vous entends. Oh, Hachem. C'est-à-dire que vous émettez quelque chose, cette chose-là, elle circule, elle entre dans mon oreille. C'est une onde, vous avez émis en physique, on va dire que c'est une onde sonore, mais une onde, c'est quoi? C'est une vibration de l'air. Pourquoi tout à coup ça, pourquoi cette vibration-là, elle est chargée, telle sorte que j'entends ce que vous avez dit. C'est pas du tout évident. On pourrait imaginer que vous parlez avec une fréquence telle que j'entends rien.
Non, mais aussi, on peut dire par extension, il peut y avoir deux personnes et il y en a qui entendent et l'autre n'entend pas.
Par aussi, par ça
Et donc,
aussi.
ce que je voulais dire, c'est
D'ailleurs,
que
c'est ce
ça, c'est
qui
un
se
peu
passait.
partout, mais c'est le travail de celui qui reçoit.
Oui, mais celui qui reçoit, il faut qu'il veuille entendre éventuellement. Mais des fois, on entend à son corps défendant. Vous n'êtes pas toujours volontaire pour entendre. Bon, il y a des choses que vous voudriez ne pas avoir entendues, par exemple. Et pourtant, c'est quand même entré dans votre. Donc, c'est vrai que. Bon, c'est comme ça. On ne peut pas empêcher d'entendre ce qu'on entend, quoi. Quelque part.
Certaines ondes que Moshe entend, pas les autres, ceux-là, ce sont des maladies.
Voilà, pour les ondes. Peut-être que nous aussi, on pourrait penser, on peut appeler Malachim aussi ces ondes que nous on produit. C'est une question d'appeler ça onde ou Malach, franchement, ça vous plaît mieux d'appeler ça onde, d'accord. Mais, change rien, c'est. Vous pouvez donner une représentation mathématique de l'onde en question, etc. C'est une façon de pouvoir ensuite traiter la chose. Parce que quand vous avez cette onde, vous pouvez dire, ben, je vais l'amplifier, je vais couper les basses, je sais pas, accentuer les hauts, ben, etc. Donc, c'est Shabbat Shabbaton, ça veut dire que il se passe quelque chose dans Yom Kippour qui est à la fois du type Shabbat et aussi du type Yom Tov. Alors, étant donné que ce jour-là, c'est le jour où Hachem nous a retransmis par le biais de Moshe les Louchot, et que les Louchot, d'une certaine manière, c'est un peu de recevoir les Louchot, c'est un matin de Torah. Donc Yom Kippour, d'une certaine façon, c'est un matin de Torah. C'est une espèce de deuxième jour de Shavuot, quoi, de matin de Torah. Mais finalement, on pourrait dire le vrai matin de Torah, notre vrai matin de Torah, c'est celui-là. Parce que nous, on vit sur les deuxièmes Louchot, on ne vit pas sur les premières.
Le premier, il a un échec.
Oui, mais c'est pas obligatoirement. La question est toujours de savoir est-ce qu'en réalité, bon, alors, vous pouvez dire, c'est bien sûr qu'il y a une dimension d'échec pour les Bnei Israël, mais cette idée que il fallait procéder en deux temps, c'est une constante. Tout se fait en deux temps. D'accord? Ça veut dire la création de l'homme, la création du monde, enfin, c'est fait en deux temps. Il y a eu la création par Adam, et ensuite la création par Noir, le pauvre de Noir. C'est deux façons distinctes de créer le monde. Dans la première, on a créé un être qui était à la fois Zachar ou Nekeva, qui ensuite a été séparé, etc. Et puis par la suite, on a pris la deuxième création, c'est la création d'une famille. Alors c'est vraiment, c'est bien un descendant de Adam, mais tout le reste est mort et Noir. Il sort de l'arche, c'est pas un homme et une femme qui sortent. C'est un homme, une femme, trois fils avec trois épouses. Donc c'est toute une famille. Alors qu'au départ, la création, c'était un qui contenait deux, quoi, quelque part. C'était même pas deux directement. Et là, maintenant, c'est une famille. Bien sûr que c'est pas complètement détaché de la première parce que Noé, c'est un descendant d'Adam. Enfin, tous ceux qui sortent de l'arche sont des antédiluviens. Paradoxalement. Mais l'humanité, elle dérive d'eux en tant que famille. Et pas des individus. Pas un individu. On n'est pas directement descendant de Noir, on est descendant de Noir, mais par ses frères, par ses trois fils. Les gens qui sont descendants de Shem, de Ham. Effectivement, Noir lui-même, on ne lui a pas laissé, ses fils ne lui ont pas laissé la possibilité d'avoir un enfant après le déluge. Il n'a pas produit. Une des raisons pour lesquelles ils l'ont maltraité, comme ils l'ont maltraité, c'était pour l'empêcher d'avoir un quatrième enfant. Mais le quatrième enfant aurait été un enfant d'après le déluge. Il n'en voulait pas. Il voulait pas partager le monde en plus que trois, mais à part ça, ça a aussi fait que Noé lui-même n'a pas produit d'enfants après le déluge. Ceux qui vont produire des enfants après le déluge, c'est ses fils. Mais pas les autres. Pas lui. Lui, non. Parce que peut-être s'il y avait eu un enfant, il aurait un statut à part par rapport à lui. Lui, il n'aurait pas été un antédiluvien. Il aurait été un fils de Noar, mais pas. Pas passé par le déluge, par là. Il aurait été complètement différent des autres.
Finalement, Dieu, c'est un échec.
Oui, c'est un échec d'un côté, mais d'un autre côté, on a presque l'impression que Hachem voulait que ça se passe en deux temps. Le clan d'Israël, il naît en deux temps. Il naît avec Abraham. Après, c'est quasiment un échec parce que ça ne continue pas comme ça. Il renaît à la sortie d'Égypte. Les Loukhot sont donnés en deux temps. Bétamigdash, on a créé un premier Bétamigdash. Maintenant, on a créé le deuxième Bétamigdash. Ce n'est pas vraiment un Bétamigdash, parce qu'il n'avait pas du tout les caractéristiques. Et d'ailleurs, quand on parle du Acharon, on saute le deuxième. Dans les textes, on saute le deuxième. On parle de. On a fait un et à la fin des temps, il y en aura un deuxième. Beaucoup de choses qui sont.
Pourquoi
bien.
Il y a des juges. Ceux qui sont sauvés, c'est la famille de Noir, mais en même temps, c'est une catastrophe. Parce
Expliquez-vous.
qu'ils l'ont maltraité, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un enfant qui est.
Ah oui, d'accord, oui. Oui. Enfin, deux d'entre eux, un peu.
Oui.
Ben, oui. Un particulièrement. L'autre, surtout femme, mais.
Le but, c'était quand même de repartir sur quelque chose qui pouvait.
Oui, ben, Noir, en fait, il y a toute une discussion là-dessus, qu'en vérité, Noir, c'est pas qu'il avait vraiment un mérite qui justifiait qu'il soit sauvé. Mais bon, c'est lui qui était sauvé.
C'est moins pire.
Oui, moi, comme vous dites. Alors.
Est-ce que ça voudrait dire que la génération d'avant-noir ne pouvait pas amener un avant-noir? Parce que
Oui, sans doute. Oui, parce qu'en fait, entre Noir et Abraham, il y a 10 générations.
Et on dit que ça fait que la Shrina s'éloigne de plus en plus.
Oui, c'est ça.
Et c'est Abraham qui l'appelle.
On va commencer à la faire descendre.
Voilà.
Abraham, c'est de 7 à 6. Et après, etc. Et c'est Moshé qui l'a fait descendre sur terre.
Mais ça veut dire que le programme avant noir, il ne peut pas amener un avant.
Parce qu'en fait, avant Abraham, le programme incombait à l'humanité tout entière. Quand Adam Harishon n'a pas fait ce qu'il devait faire, ben ce sont ses descendants. Et le descendant d'Adam, c'est l'humanité tout entière. C'est eux qui étaient en charge de faire ce qu'Adam n'a pas fait. C'est-à-dire de faire en sorte de faire reconnaître Hachem comme roi du monde. Ça incombait à l'humanité tout entière. Mais elle ne l'a pas fait et c'est allé se dégradant jusqu'au point où ils sont définitivement disqualifiés avec la tour de Babel. Et au moment de la tour de Babel, il y a Abraham. Le patron de la tour de Babel, c'est Nimrod. Nimrod, c'est l'ennemi d'Abraham. Donc, au moment où l'humanité se disqualifie, Abraham dit, moi, je peux essayer. Propose d'essayer, Hachem le teste, et dit, OK, bon, on va essayer avec toi.
Et non, c'est le contemporain de l'idée.
Non, lui, il est la sixième, je crois, génération, septième génération. Lui, il était un peu particulier. Mais il n'a pas fait école, quoi. Donc, tout le processus assez extraordinaire de Yom Kippour, dans la Torah, il est décrit. Un processus avec des corbanotes, etc. Et curieusement, c'était Yom Kippour, c'était le travail du Kohen Gadol. Et nous, on attendait. Les Bnei Israël, ils attendaient. C'est même pas sûr qu'ils priaient. Disons qu'ils priaient. Mais bon, ils attendaient. Jusqu'à ce qu'ils sortent. Quand ils sortaient, vivant parce que c'était bien passé, alors il y avait une explosion de joie, de Simcha incroyable. Nous, il ne nous reste que Marie Cohen. Mais c'était énorme, quoi. Super fête, quoi. En même temps, extraordinaire. La marraine dit, Loayo Yamim Tovim. Il n'y avait pas de Yom Tov comparable à Tou B'Av et Yom Kippour. Ben c'est ce jour-là où les filles allaient dans les vignes, et les garçons, elles allaient quasiment draguer les garçons. disait, épouse-moi pour ceci, épouse-moi pour là. Truc incroyable, quoi. Un kippour, oui. Il reste ça aujourd'hui, dans certaines synagogues devant le parvis, tout le monde se raconte. C'était un jour tout à fait particulier, mais où justement, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'était le rôle d'un seul, quoi, qui faisait tout le travail, quoi. Ça ressemble à ce qui a été dit à Moshe. Tu vas désigner quelqu'un qui va être le Shliar Tzibour, c'est lui qui va lire les Shloshet Midot. Lui, il lisait pas tellement les Shloshet Midot, mais il faisait la avoda de avec un vidouille, trois fois, trois vidouilles, trois. Etc. Toute une avoda. C'était, en fait, il courait toute la journée, enfin, toute la demi-journée en question où il travaillait jusqu'en début d'après-midi. Il courait tout le temps. Il n'arrêtait pas de devoir se changer de vêtements, et chaque fois qu'il changeait de vêtements, il allait se laver les mains, les pieds, etc. Grosse expédition, quoi. Et avec la destruction du Beth Amikdash, tout a changé. C'est descendu au niveau des individus. Ce qui était un truc plus tout à fait collectif est maintenant descendu au niveau des individus. Tout le monde doit aller prier par soi-même. Personne ne va faire le job pour vous. Alors, on peut dire que c'est désolant. Mais on peut aussi regarder la chose en disant, passer le passage de l'enfance à l'adulte. C'est-à-dire, au lieu que maintenant quelqu'un d'autre fasse pour toi, fais toi-même pour toi. Et ça, c'est tout le processus ce qui se faisait par les Kohanim. Aujourd'hui, il faut le faire tout seul. Aujourd'hui, avant, pour apporter un korban, c'est vrai qu'il fallait acheter un korban et l'amener au Beth Amikdash. Et ensuite, le Kohen faisait le job. Et maintenant, le job lui-même, bon, on n'a pas besoin d'acheter un agneau, etc. Mais tu veux avoir l'équivalent d'un korban, il y a des parchemins à étudier, à réciter. Faire tout ça, personne ne va faire pour toi. Mais alors, toujours avec possibilité de le lire comme ceci ou comme cela, ou peut-être les deux à la fois. Donc, c'est le côté positif, si on peut parler de ça, c'est que maintenant on apprend à le faire tout seul. Donc, on peut imaginer qu'ayant appris à le faire tout seul vraiment, si à la fin des temps on revient à une situation où l'un va faire pour tout le monde, ce sera complètement différent parce que je charge quelqu'un de faire quelque chose que je sais faire, que j'ai moi-même fait. C'est pas du tout la même chose de faire faire par quelqu'un quelque chose que je ne sais pas faire et que je n'ai jamais fait.
On relie ça beaucoup à Matan Torah, Shavuot, mais finalement pas tant que ça avec Rosh Hashanah.
Alors, l'idée, je vous avais dit, d'où est-ce qu'on sait que Rosh Hashanah, c'est un Yom Hadin? Alors, on avait expliqué que c'est l'anniversaire de la création de l'homme, et l'homme, donc, il doit faire un bilan et donner des comptes. Et tout ça va très bien d'après Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en automne. Et Rabbi Yehoshua dit que le monde a été créé au printemps. Donc, Rosh Hashanah n'a rien à voir avec la création de l'homme. L'homme, il a été créé au... Si le monde a été créé au printemps, ben l'homme, il a été créé au mois de Nissan. Bon, le premier Nissan, c'est tout. Alors, bon, c'est aussi un grand jour, si vous voulez, mais c'est pas Rosh Hashanah. Alors, d'après lui, d'où vient Rosh Hashanah et Yom HaDin? Alors, en fait, je vous ai dit que quand Moshe Rabbeinu a intercédé pour qu'Hachem pardonne la faute du veau d'or, ça a été très, très, très long, très dur. Hachem était absolument inaccessible. Il y a un midrash qui dit que 10 jours avant Yom Kippour, quelque chose a bougé. 10 jours avant Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah. Donc Rosh Hashanah, si vous voulez, c'est le, c'est la chose à l'envers. Rosh Hashanah, c'est éventuellement une ouverture qui va donner Kippour. On a l'impression que Yom Kippour vient après Rosh Hashanah, mais en réalité, Rosh Hashanah, ça vient bien après, mais Rosh Hashanah n'est que une petite idée de l'ouverture qui va avoir lieu à Kippour. Donc, c'est pour ça que c'est un jour de jugement. Yom Kippour, c'est le moment où c'est scellé. Les choses sont scellées. Khatima. Khatima, ça veut dire la signature, le sceau. SC, voilà.
D'avoir été jugé.
Pardon?
Il faut dire que le pardon, que si on a été jugé, on pardonne ou pas un
Mais
coupable.
peut-être que.
Donc,
Alors, c'est pour ça qu'il y a un jugement. Mais d'où est-ce qu'on sait que c'est un jugement? On aurait pu dire, ben, on est jugé entièrement le jour de Kippour. Jugé et pardonné. On n'a pas besoin d'étendre ça sur 10 jours. Alors, comme ces 10 jours sont des jours de progression du pardon, en quelque sorte, pour nous, ça donne Aseret Yemei Teshuvah. 10 jours particuliers de Teshuvah. Des jours où on essaie de faire bonne figure. Où on essaie de montrer que, voilà, je suis prêt à faire un effort. Et on fait quelque chose qui peut paraître un peu presque hypocrite ou un truc comme ça, parce que le jour de, quand les Aseret Yemei Teshuvah, il y a toutes sortes de choses qu'on fait, qu'on fera pas par la suite. Les gens qui mangent du pain goy, kasher, mais du pain goy, pendant Aseret Yemei Teshuvah, ils mangent que du pain juif, etc. Les gens, toutes sortes de choses qu'on ne fait que pour 10 jours. Mais on n'a jamais dit qu'on en ferait pour le reste du temps. Et c'est tout, pour montrer qu'on a une bonne volonté. Quelque part, on fait un petit effort. On va dire, mais c'est purement hypocrite, là. Tu fais ça et l'homme ne te fera pas. Non, c'est ça, c'est. On se met un peu dans l'ambiance, quoi. Voilà, on va s'arrêter là.
Ça a été caché.